Évidemment, là, le concept, c'était on a le spleen, comment on fait pour retrouver sa joie. Donc là, après, par association d'idées, bim, ça, moi, les images, elles arrivent très vite.
Bonjour, je suis Amélie Cordonnier. Bienvenue dans Secrets d'écriture, le podcast littéraire de la rédaction de Femmes Actuelles. Chaque semaine, un auteur ou une autrice partage avec nous ses secrets d'écriture. Aujourd'hui, nous recevons Raphaël Giordano pour le spleen du popcorn qui voulait exploser de joie, paru aux éditions Plomb le 6 octobre. D'elle, vous avez sans doute lu un de ses longs titres devenus sa marque de fabrique. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en auras qu'une, le jour où les lions mangeront de la salade verte, Cupidon a des ailes en carton, le bazar du zèbre à pois. Elle signe aujourd'hui son cinquième roman. Sûre que vous adoriez manger du pop-corn autrefois, peut-être même encore aujourd'hui. Et certaine que le bruit qu'il fait quand il éclate vous met en joie. Eh bien, une ode à la joie, une invitation à envoyer valser le spleen, ainsi pourrait-on définir ce nouveau roman de Raphaël Giordano. Elle va nous lire un passage qu'elle a choisi et nous livrera ensuite quelques-uns de ses secrets d'écriture. Écoutons-la. Bonjour Raphaël Giordano.
Bonjour Amélie.
Je suis ravie de vous recevoir pour parler de votre nouveau roman, Le spleen du popcorn qui voulait exploser de joie. Vous allez nous en lire un passage, on vous écoute.
Quand Benjamin ouvre la porte à Joy, il sent comme un souffle de mauvaise humeur pénétrer dans son antre. Comprenez, tous les mots n'ont pas la même puissance, la même importance. Par exemple, le glamour, là, est beaucoup trop gros par rapport à l'excellence. « Pas de problème », réplique Benjamin, qui tente de maquiller son agacement. Entre deux clics, il l'observe à la dérobée. Elle se tortille sur sa chaise. Il note les cernes bleutées sous les yeux, l'éclat de tristesse et de morosité dans ses yeux. Il sent bien que quelque chose ne va pas. Son petit manège ne prend pas. Soudain, il en a assez qu'elle joue un rôle qui ne lui ressemble pas. Il la préfère quand elle baisse la garde et qu'il aperçoit enfin la Joy authentique. Il repousse sa souris et se lève brusquement de sa chaise. Elle sursaute. « Allez, hop, on arrête tout !»«
Quoi ? » ?»«
On arrête, Joy, vous n'êtes pas dedans !»« Mais non, je ne comprends pas votre réaction, il faut qu'on... » »« Stop ! Vous avez épuisé votre stock de « il faut ». Vous n'avez plus le droit à un seul « il faut ». Il la prend par le bras et l'entraîne vers la cuisine. Il l'assoit sur un tabouret, malgré ses protestations, et garde ses mains plaquées sur ses épaules pour qu'elle l'écoute. « Je ne vais pas vous dire des « il faut ». Je vais vous dire, Joy, que vous avez besoin de prendre le temps nécessaire pour me dire ce qui ne va pas. » Elle le regarde, bouche bée. Benjamin, comme il s'y attendait, voit alors le masque tomber. Sa pseudo-agressivité est bien un camouflage. Un camouflage qui cache une détresse, une tristesse, il en est sûr. L'émotion la gagne, malgré les derniers soubresauts, pour garder la maîtrise d'elle-même. Elle finit par parler. Ce que vous m'avez dit l'autre jour, que je devais me désappliquer, comment dire, ça m'a renvoyé une image de moi vraiment pas positive. C'est dommage, Joy, car ce n'était pas l'effet escompté, bien au contraire. Vous me trouvez si rasoir, si bon élève coincé ? Benjamin éclate de rire, mais devant le sérieux de Joy, il comprend qu'il est urgent de la rassurer. Mais pas du tout. Vous croyez vraiment qu'on aurait eu une si belle journée ensemble si c'était le cas ? Je vais vous dire ce qui se passe, Joy.
Quoi ?
Il se passe que, je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose en vous me touche depuis le départ. C'est irrationnel, mais je sens que ce que vous montrez de vous, cette espèce de rôle que vous vous êtes créé depuis que vous bossez dans cette agence, eh bien, ce n'est pas vraiment vous.
Comment ça, pas vraiment moi ?
Non, c'est comme un rôle de composition, mais qui ne vous ressemble pas. Comme si la vraie vous, vous l'aviez perdue en cours de route, un peu reniée. Et que c'est pour ça que vous avez souvent l'air triste.
bon, j'ai l'air triste ?
Pas tout le temps, non. Et ça, j'adore.
Quand par moments vous oubliez d'être sous contrôle, que vous vous laissez surprendre, alors la joie revient sur votre visage. Et ce grand sourire que vous laissez jaillir vous illumine. Un peu comme la lumière du soleil quand il perce à travers les nuages d'un ciel très chargé, vous voyez ? Benjamin s'arrête, suspendu à ses propres mots et à ses mains en train de mimer dans les airs ce paysage imaginaire. Vient-il de dire à haute voix le fond de sa pensée à cette femme ? N'est-ce pas totalement déplacé de dire des choses pareilles à une cliente ? Maudite soit sa spontanéité ! Il se mord les lèvres et regarde Joy dans le fond des yeux pour essayer de percer l'impact de ses propos sur elle. Un silence embarrassant plane sur eux lorsque soudain, la porte de l'atelier claque. Alors, le passage que je viens de vous lire se situe à peu près à la moitié du livre. Pour moi, c'est un moment un peu charnière parce que le lien s'est maintenant créé entre Joy et Benjamin, les deux héros de mon histoire. Et c'est un peu le moment où Joy commence à prendre conscience de ce qui ne va pas. Et Benjamin, lui, avec son naturel, sa bienveillance, a eu cette idée de lui souffler le principe de désapplication. Alors la désapplication, c'est vraiment se désappliquer, en finir avec le syndrome de bon élève. Vous savez, comme quand on était en classe, là, peut mieux faire. Et finalement, on finit par se mettre tellement la pression pour être à la hauteur qu'on en perd sa joie, sa spontanéité. Et c'est ce qui arrive évidemment à Joy. Alors, ce cinquième roman, l'idée m'est venue, à vrai dire, pendant le premier confinement. Vous savez, c'était une période bien dure pour nous tous, où on était encore plus enfermés et sous contrôle, avec toutes les injonctions qu'on nous donnait. Et ça m'a donné envie de réfléchir encore plus à nos vies. Et moi, la sensation que j'avais, c'était qu'on avait des vies très, très quadrillées, finalement. On nous dit, il faut que tu manges ci, il faut que tu comptes tes pas, il faut que tu sois en forme. Quand on travaille, il faut être organisé, tout ça. Et je trouvais ça assez oppressant, finalement, toutes ces injonctions. Et il y a eu immédiatement ce double mouvement qui m'est venu en tête, c'est-à-dire à la fois le côté pesant, pression vers le bas, et par mouvement contraire, qu'est-ce que c'était que retrouver sa légèreté, sa joie, donc un mouvement vers le haut, explosif, de légèreté, de spontanéité, de joie, de gaieté. Là, ce qui a été important pour moi dans ce roman, c'est de parler de la joie, et pas forcément de bonheur, parce que c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé du concept de bonheur. Et la joie, c'est encore quelque chose de très différent. C'est quelque part se retrouver soi-même, se reconnecter à soi et à cette part d'enfant en nous. Parce que quand on est gosse, on a la joie facile finalement. Hein, on n'a pas besoin de mode d'emploi pour être dans la fraîcheur, la spontanéité et la gaieté. Pour moi, c'est pas futile, la joie. C'est vraiment quelque chose de profond. Le fil rouge dans tous mes romans, quelque part d'être au plus proche de ce que les gens ressentent dans leur existence, parce qu'on traverse tous à peu près la même chose, hein, globalement. Et c'est d'être comme une passeuse d'idées, finalement, pour provoquer des déclics, faire sauter les petits verrous qui empêchent les gens d'être heureux, finalement. Bien sûr, l'envie, c'était de faire sauter le couvercle. Et on peut tous ressentir ces pressions, des fois, au quotidien. Et quand le ciel bas est lourd, ça, c'est très beau de l'air rien. Et ce qui est rigolo, c'est que l'image que j'ai, la métaphore que j'ai employée avec le pop-corn, c'est le mouvement inverse. Mais ce qui est amusant, c'est que finalement, quand on fait cuire des pop-corns, on met un fond d'huile, on met les petits grains de maïs et on met un couvercle par-dessus. Donc là, c'est de faire sauter le couvercle du spleen. Je cherche toujours des images pour faire comprendre des concepts un petit peu abstraits. Or, quand on retombe dans l'amorosité, on dit qu'on n'est plus connecté. Bon, mais c'est un peu abstrait, connecté à quoi? Alors, une image, pour moi, c'était une prise de joie, du coup. Quand ça nous arrive et qu'on est dans le spleen, effectivement, la prise, elle est débranchée et c'est panique à bâbord. On est triste, on est abattu. On dit faire son miel avec les petites choses de la vie, comme les petites abeilles qui butinent de fleur en fleur et elles se le fabriquent pour elles-mêmes après le miel. Eh bien, peut-être que l'idée, c'est nous aussi de cultiver tous les petits moments plaisir et bonheur. De les identifier et après de les collectionner. Alors, voyez-moi par exemple, c'est quand je danse le tango argentin. J'oublie tout, je suis vraiment non pas dans la pensée, dans la rumination, mais dans la joie des sensations pures et dans l'instant présent. Joyce est une jeune femme qu'on retrouve au début de l'histoire qui travaille dans une agence de celebrity marketing. Une agence de communication et qui est avant tout un vrai repère de caractériel. Alors, ce qui arrive à cette jeune femme, c'est que finalement, au début de l'histoire, elle doute pas mal d'elle-même. Elle a l'impression de ne pas avoir de talent particulier, d'être un peu une personne lambda. Alors, elle rame pour se sentir à la hauteur. Et dans sa quête de désapprobation, elle se met tout le temps la pression. Benjamin, c'est un personnage très flex. Il est libre dans sa tête, Benjamin. Lui, j'ai opposé les deux agences. Il y a l'agence de Joy qui fait un management, pas par la terreur, mais presque. Alors que Benjamin, qui a monté sa petite boîte, lui, il a compris qu'il y avait une autre forme de mode de fonctionnement. Il est au plus près de l'humain. Et les gens avec lesquels il travaille, ça a fini par devenir une famille de cœur. Donc, il a cette intelligence-là. Et à l'inverse de Joy au début de l'histoire, lui, il surfe sur la vague comme un dauphin. Donc, il sait poser ses limites et être dans le plaisir, dans ce qu'il fait. Il va être touché par Joy, parce que c'est une cliente, Joy, pour lui. Elle lui commandite un événement, les 10 ans de l'agence. Et plus il va la connaître, plus il va avoir envie de lui souffler des idées, de lui transmettre un peu de sa philosophie. Arrêtez de stresser, apprenez à dire non, prenez du plaisir et voilà, il va essayer de la reconnecter à sa joie. Mais tout ça n'est pas, il l'a pas en tête complètement consciemment, mais il le fait d'une manière naturelle. Joy, vous le découvrirez, a développé un toc digital. C'est-à-dire que à chaque fois qu'elle est en panique, qu'elle a l'impression de plus gérer, elle s'enferme dans les toilettes et il faut qu'elle s'installe des applications, toujours plus d'applis, mais pour avoir l'impression de garder le contrôle sur sa vie et sur ses missions. Alors, ce qui m'a plu, c'est de pousser le trait. Évidemment, donc j'ai inventé des applis qui sont des deux en un improbables. Par exemple, Teddy Run, vous écoutez une conférence TED en faisant votre running, ou Yoga Cook, pendant que vous faites la cuisine, vous prenez des postures de yoga. Le mimétopipo, c'est ce concept qui a été soufflé par Benjamin à Joy. Dans mimétopipo, on entend mime, donc c'est un jeu quelque part. Et pipo-pipo, c'est quelque chose qui est pour de faux. Donc l'idée, c'est de jouer avec les situations et d'arrêter de les subir. Alors, ce qui se passe, un exemple concret tout de suite. Une des collègues de Joy qui est tous les jours l'alpague à la machine à café et se déverse sur elle de son stress et de ses tracasseries en lui bouffant son énergie. Joy, en appliquant le mimétopipo, en effet miroir, se met elle-même à se déverser sur cette collègue, à lui casser les pieds, à se répandre, et ce qui a l'effet de tout de suite couper, en fait, et de faire fuir cette collègue envahissante. Le spleen du pop-corn qui voulait exploser de joie. Alors, bien sûr, le concept fort, c'est le spleen du pop-corn. Un oxymore, c'est de rapprocher deux concepts antinomiques. D'un côté, le spleen, qui bien sûr est un clin d'œil à Baudelaire, quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était à la fois cette pesanteur, cette lourdeur qui est tout à fait pertinent par rapport à cette notion de pression qu'on subit et qu'on se met à soi-même. Et de l'autre, le pop-corn, qui était la métaphore pour moi de la joie. Pourquoi ? Parce qu'un pop-corn, c'est léger, ça a le goût sucré de l'enfance, on explose de joie, on explose de rire, donc ça collait tout à fait. Donc j'ai eu envie de rapprocher les deux mots, hein, ça fait comme ça des étincelles, et ça permet d'une manière imagée de donner envie, j'espère, aux personnes qui liront le titre et de les mettre sur la voie du thème principal du livre qui est « Rebrancher sa prise de joie ». Ce titre m'est venu très très vite, je dois dire. Vous le savez, je fonctionne avant tout par concept dans chacun de mes livres, la routinologie, la burnerie, l'amourability, voilà. Évidemment, là, le concept, c'était on a le spleen, comment on fait pour retrouver sa joie ? Donc là, après, par association d'idées, bim, ça, moi, les images, elles arrivent très vite. Ce qui fait peut-être ma signature, c'est que mes titres ont toujours quelque chose d'imagé. Je veux frapper les esprits. Pour parler des profils un peu toxiques comme dans les burnets, par association d'idées, quand on pense à un profil un peu dominant, si on fait un portrait chinois, tiens, ce serait peut-être un lion, parce que les lions sont quand même connus pour être les rois de la jungle, forts et dominateurs. Donc ça, c'était pertinent comme image. Et donc, ça a donné le jour où les lions mangeront de la salade verte, parce que l'étonnement vient de ça. Les lions, par définition, mangent de la viande. Et donc, qu'est-ce qui est étonnant, c'est de manger de la salade verte, puisque tout le propos du livre, c'est d'amener ces personnalités-là à évoluer vers un comportement plus bienveillant, en gros, d'arrondir les angles. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. La citation est venue me chercher. Ça collait tellement au thème du livre. Ça a été une évidence. Le père de Joy la surnommait enfant « mon petit pop-corn ». Et c'est vrai que l'équipe de Plomb m'a fait l'amitié de me surnommer en ce moment mon petit pop-corn aussi. Je ne sais pas, peut-être parce que j'ai ce tempérament souriant et spontané. Mais en tout cas, ça me fait très plaisir, bien sûr. Le pop-corn, y a ce côté régressif, léger, spontané. On l'associe à des moments de plaisir immédiatement. Et ça collait tellement bien avec mon thème. Joy, j'ai choisi ce prénom parce que c'était mon allégorie de la joie. Mais il y a d'autres personnages dans le roman. Alors, par exemple, les deux boss de l'agence, Virginia et Hugo. Alors, moi, je ne fonctionne pas en me disant « Tiens, il faut que je trouve des prénoms ». Ça ne marche pas comme ça. Je me suis dit « Les boss de cette agence de celebrity marketing sont des gens « m'as-tu vu ?» un peu bling-bling dans la superficialité et dans l'image. Donc, dès qu'on part de l'expression « m'as-tu vu ?» V-U, là, j'ai dit V et U et j'ai trouvé les prénoms Virginia et Hugo.
Raphaël Giorviano, si vous le voulez bien, je vous propose de répondre à notre petite interview du Tac au Tac.
D'accord.
Êtes-vous une écrivaine diurne ou nocturne ?
Diurne.
De la semaine ou du week-end ?
Semaine.
Plutôt canapé, lit ou bureau ?
Bureau.
Solitude ou bistrot ?
Solitude. Il faut que je sois dans ma bulle, enfermée avec les boules-caisses et tout ce qui va bien.
Carnet ou ordinateur ?
Les deux, mon capitaine.
Robert ou Larousse.fr ?
Google. Désolée, les temps ont changé.
Première ou troisième personne du singulier ?
Première personne du singulier pour mes personnages principaux, mais quasiment à chaque fois, je me mets dans la tête de tous les personnages.
Présent ou passé ?
Présent, plutôt.
Whisky ou café ?
Café sacré du matin.
Chocolat ou cigarette ?
Cigarette occasionnelle que j'essaye d'arrêter. Chocolat, allez, petit plaisir comme ça, 2 carrés par jour.
Et musique ou silence ?
Les deux aussi. Musique en balade et écouter le silence quand je suis au calme chez moi, c'est bien.
Vous est-il arrivé, Raphaël Giordano, d'écrire ce roman dans un état second? Et vous avez le droit d'entendre état second comme vous le souhaitez.
Alors, j'ai jamais pris de substance pour écrire. Par contre, c'est vrai que c'est une telle concentration, une telle immersion quand j'écris, que ça me fait un peu penser, vous souvenez, à Jean-Marc Barr dans Le Grand Bleu, quand il voit plus rien, il entend plus personne et qu'il plonge dans les abysses.
Pour vous, qu'est-ce qu'une journée d'écriture réussie?
C'est quand j'ai réussi à atteindre mes objectifs, parce qu'être écrivain, c'est beaucoup de rigueur. Et en même temps, je me donne un quota, figurez-vous, de mots. Je ne dépasse jamais 1200 mots par jour. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de pire pour une créative que d'arriver au seuil de saturation.
Qui est votre premier lecteur?
Ma mère. Parce que elle a à la fois elle fait des retours extrêmement bienveillants, mais sans brosser dans le sens du poil. Très précieux.
Vous lui envoyez en cours de route alors, que vous avez écrit, ou à la toute fin?
Maintenant, j'évite d'envoyer en cours de route, parce que les moindres commentaires peuvent des fois vous couper dans votre élan. Donc je compte que sur moi pendant l'écriture du roman, et j'envoie vers la fin.
Quelle faute d'orthographe colle à votre stylo?
Alors j'avoue que j'ai toujours une micro-hésitation au moment d'écrire « magasin » et « magazine ». Et sinon, c'est les H, en maître ou pas en maître, posthume, rédhibitoire, enfin, tous ces petits mots comme ça.
Est-ce qu'il y a un mot que vous détestez et que vous n'employez jamais?
Il y a des mots qui me déplaisent vraiment sur le fond et sur la forme, gland, croûte. Parce que vous voyez, c'est à la fois, c'est pas beau phonétiquement, non, fion, gland, croûte. C'est des mots, non seulement ils sont moches dans ce qu'ils véhiculent, mais en plus la sonorité est moche.
Et y a-t-il à l'inverse un mot que vous préférez?
Il y a un mot que j'aime bien, c'est époustouflant. Parce que là, on entend le souffle de l'émerveillement et ça me plaît.
Alors, je ne vous parle pas de TOC digital, on en a déjà parlé, mais cette fois-ci de tic d'écriture. Est-ce que vous en avez un et comment vous luttez contre lui?
Tic d'écriture, alors, on ne parle pas des petits mots parasites qui se collent un peu partout. Hein, on se relit et on se rend compte qu'on a mis des un peu et des traits un peu partout. Ça, c'est énervant. Et tic d'écriture, si, c'est avant de m'y mettre. Je tourne beaucoup autour du pot. Je peux me perturber s'il y a, je ne sais pas, un tiroir qui est resté entrouvert.
On parle de vos lectures. Quel est le livre qui a marqué votre enfance?
L'un des livres qui a marqué mon enfance, c'est en premier « Le Mouron Rouge ». Un aristocrate anglais qui passait pour un idiot dans la grande société, mais qui en fait allait sauver d'une manière rocambolesque les aristocrates de la guillotine en France pendant la Révolution française. Bon, j'avoue, j'étais amoureuse de lui. Voilà, ça peut donner le goût de la lecture.
Et quel est le livre qui vous a fait pleurer dans votre vie?
Quand j'ai lu la Pitié dangereuse de Zweig, c'est un drame, hein. J'étais complètement bouleversée.
Avec quel écrivain vivant ou mort aimeriez-vous dîner?
Je vais peut-être vous surprendre, mais pourquoi pas dîner avec Michel Houellebecq? Ça me plaît parce que j'aime bien aller vers les opposés. Bon, c'est vrai qu'on nous oppose, par exemple. Et ce serait rigolo de montrer que moi, je ne suis peut-être pas la gentille petite bonheuriste et que lui n'est peut-être pas ce vilain cynique qu'il prétend être. Et je pense qu'il a beaucoup d'humour.
Avez-vous déjà débuté l'écriture de votre prochain roman, Raphaël Giordano?
Je vais vous faire peur. Je l'ai fini.
Bah bravo, on a hâte de le lire, mais en attendant, on a celui-ci à lire. Ça sera ma dernière question, Raphaël Giordano. Nous avez-vous confié tous vos secrets d'écriture ou est-ce que vous en avez gardé quelques-uns pour vous?
Ah, les secrets d'écriture, ça me fait penser aux magiciens. Et ils révèlent jamais tous leurs trucs, finalement. Mais je vais vous dire quelque chose. La magie, moi, c'est toujours un peu quelque chose de magique pour moi encore. L'écriture, l'inspiration, comment elle me vient. J'en sais rien, peut-être qu'il faut que ça reste mystérieux.
Merci à Raphaël Giordano et aux éditions Plon. Je rappelle que le spleen du popcorn qui voulait exploser de joie a paru aux éditions Plon le 6 octobre 2022. Si ce podcast vous a plu, ce que j'espère vivement, n'hésitez pas à vous y abonner et à nous laisser vos commentaires. Et puis, pour découvrir de nouveaux secrets et les coups de cœur de la rédaction, rendez-vous en kiosque ou sur le site femmeactuelle.fr. À bientôt !